Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand s'est installé confortablement dans le studio Coluche, fidèle à notre rendez-vous. Et vous me disiez, Franck, que vous crouliez sous les condoléances ce matin.
Oui, Julia, fleurs et couronnes. Une déclaration du président de France Télévisions à propos des deuxièmes parties de soirée de France 3 a été mal interprétée hier soir. Et du coup, tout le monde a cru que l'ombre d'un doute allait être abandonnée. Résultat, un flot de témoignages de fidélité dont je vous remercie tous. Ça n'est jamais désagréable, mais je vous rassure, l'ombre d'un doute va continuer. Simplement, nous allons passer de 23h et quelques à 20h30, ce qui est encore mieux.
C'est ce qu'on appelle le prime time. Voilà. Et bien, tant mieux, nous voilà rassurés. Alors aujourd'hui, à la radio sur Europe 1, vous avez choisi de nous parler de train.
Et oui, et à l'occasion de la sortie d'un coffret DVD, Il était une fois le train. Vous savez, j'aime bien ces partenariats européens qui nous amènent à explorer des sujets intéressants, surtout quand c'est, vous allez le voir, en très bonne compagnie.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Un train qui roule, la vie s'écoule, écrivait Guillaume Apollinaire. Voyager en train peut encore être un bonheur d'esthète. Alors c'est vrai que la plupart des usagers empruntent les chemins de fer par nécessité. Si on peut dire, c'est le train utile. Mais il existe aussi, pour qui sait goûter les spécificités du rail, un train plaisir. Et c'est celui dont nous allons parler évidemment aujourd'hui. Le rail, le fameux chemin de fer devenu chemin d'acier. Guidé au sol, le convoi gagne en sûreté ce qu'il a pu perdre en autonomie. L'itinéraire est tracé évidemment. Le mouvement des voitures déterminé, les points de passage obligés. Ainsi des gares, par exemple, qui jalonnent le trajet de leurs architectures familières. Gare de destination qu'on brûle d'atteindre, gare de départ d'où l'on s'arrache à contresens, sinon à contre-cœur, gare de simple passage aussi. Elles sont des nœuds de connexion, des nœuds propices aux rêves. Demandez ce qu'ils en pensent aux amateurs de modélisme qui calculent les changements d'aiguillage de leur train miniature. Vous savez, ce qui fascine un grand nombre de nos auditeurs dans le réseau ferroviaire, c'est l'aspect complexe des voies, postes, machines, correspondances que tout ça met en relation. C'est un véritable réseau, avec à la clé ces fameux horaires qu'il faut à tout prix respecter. Vous savez que c'est Daninos, on ne parle jamais de Daninos, c'est dommage, Pierre Daninos était un très grand humoriste qui a littéralement enchanté mon adolescence et il disait que la seule façon de prendre un train, c'est de manquer le précédent. Mais pour les amoureux du train, au-delà du rail, tout est dans le mouvement. Son propre mouvement isole le train comme système mobile. La collectivité des passagers se trouve pour un temps coupée du monde extérieur. Elle est une sorte de république éphémère qui, selon les expressions de Roland Barthes, je cite Roland Barthes, « jouit de son enfermement au sein d'une intériorité sans fissure ». Ah, ce style-là, il nous manque aussi parfois. Le train, partie intégrante du paysage de départ, va devenir partie intégrante du décor d'arrivée. Et entre ces deux pôles, eh bien, le voyageur sera bercé, il se sera amusé à observer tout ce qui change au dehors. Vous savez, autour d'un navire en haute mer, les repères paysagers se réduisent le plus souvent à une ligne d'horizon bleu uniforme. Depuis les hublots d'un avion, vous observez une sorte de plan en contrebas quand ça n'est pas caché par les nuages. Vous voyez le paysage se rapprocher frontalement à travers le pare-brise d'une automobile. Mais vu du train, ces repères défilent latéralement. Le décor semble se dérouler en parallèle au mouvement. La masse des bois tourne sur elle-même, s'entrouvre en une allée, se replie comme se masquant derrière un de ses membres, écrivait Michel Butor dans La Modification. Balayant vivement de leur raie noire toute l'étendue de la vitre, se succèdent sans interruption les poteaux de ciment ou de fer, montent, s'écartent, redescendent, reviennent, s'entrecroisent, se multiplient, se réunissent, rythmés par leurs isolateurs, les fils téléphoniques, semblables à une complexe portée musicale, non point chargés de notes, mais indiquant les sons et leur mariage par le simple jeu de ces lignes. Fuite de l'espace à la Michel Butor et fuite du temps.
Un train bohème, un wagon crème et un wagon chocolat. Le vent le pousse, il pèle et tousse en s'arrêtant ça et là. Je m'en vais vers l'Estérel et beaucoup plus loin. Quand
Salvatore Adamo sur Europe 1 avec le plus beau train qui roule. Dans un instant, l'histoire des trains. Attention, nous montons bientôt en voiture.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire des trains aujourd'hui sur Europe 1 Franc en compagnie de vos invités Clive Lemming qui est historien des chemins de fer français et Jean Descartes, journaliste, écrivain, historien et auteur du Dictionnaire amoureux des trains chez Plon.
Mais parce qu'il est amoureux des trains, Jean Descartes, merci d'être fidèle à nos rendez-vous et bonjour Clive Lemming, merci de venir nous parler de ce qui est de votre véritable passion et depuis toujours. Alors j'aimerais dans un premier temps que nous parlions des tout premier train, de l'invention même du chemin de fer. Alors, ce qui est très étonnant, j'ai découvert ça en vous lisant, c'est qu'il y avait des chemins de fer même dans l'Antiquité. Enfin, si on peut appeler ça des chemins de fer, c'est l'ancêtre, disons, l'ancêtre.
Oui, je voudrais vous dire que je ne parlerai pas au nom d'une passion, parce que la passion, même multipliée, ne mène jamais très loin. J'ai acheté ce statut de, si je peux dire, de sportif de haut niveau dans la catégorie professionnelle, avec une thèse en histoire sur les chemins de fer à la Sorbonne, alors, 27 ans du SNCF. Et justement, je voulais vous dire que j'ai découvert l'immense ancienneté du chemin de fer. Des réseaux existaient au Moyen-Âge dans les mines, et vous avez raison, les Égyptiens connaissaient le principe du roulement, n'est-ce pas, sur des plans inclinés. C'était du bois, parfois garni de métal, donc le chemin de fer était extrêmement ancien. Ça vous décuple la charge transportée simplement avec ce système-là.
Évidemment.
Vous savez que les Romains, avec leur voie, finalement, c'est à peu près pareil. C'était du marbre avec des ornières qui guidaient, et le charron qui construisait une charrette à un écartement non standard était puni de mort. Parce qu'il fallait que ces charrettes passent dans Pompéi sur les passages cloutés surélevés. Il fallait que les roues s'engagent exactement entre les dalles de pierre surélevées.
Ce qui permet
le chemin de fer, c'est vieux comme l'homme. Et le chemin de fer a amené la norme et, je dirais, hélas, la fin de la fantaisie créatrice.
Ce qui permet, lorsqu'on se promène dans certaines ruines romaines, je pense à Touga en Tunisie par exemple, de voir exactement le tracé, le passage des chars.
Hein, sont c'est... creusés. Ce ne sont pas, c'est pas de l'usure.
Non, c'est creusé dans le...
C'est véritablement creusé avec des normes strictes, très définies, très sérieusement définies. Donc alors, c'est bien du chemin de fer dans l'esprit.
Alors, on parlera de normes tout à l'heure, car je crois que c'est une notion strictement indissociable de la notion de chemin de fer. Mais qui dit chemin de fer, dit fer avant tout, bien entendu. Il a fallu l'arrivée de la révolution industrielle pour rendre tout ça possible. Et puis il a fallu aussi une machine capable de tirer le convoi.
Le chemin de fer, je dirais moderne, est donc né au début du 19e siècle avec l'alliance de cette locomotive, effectivement, et de la voie qui pouvait la porter. Mais vous savez que les premiers chemins de fer, c'est railways, avec une chaussée plate et très large. C'est, au lieu de goudronner, celui-là, on mettait des plaques de fer. Vous imaginez que les chevaux dérapaient là-dessus, les voitures allaient en tous sens. Alors ce qui fait que ces plaques de fer, on a mis des rebords au bord des routes pour éviter que les voitures déraillent, et des gens extrêmement astucieux ont compris qu'ils pouvaient percevoir des péages, parce que toutes les charrettes à roues cerclées de fer roulaient beaucoup plus vite. Donc ce sont des premières autoroutes qui sont ces voies ferrées. Elles n'ont pas duré longtemps, 1780 jusque vers 1805-1810, et très vite on a pris le plate rail, le rail plat avec son petit rebord, posé sur des dés en pierre. Le chemin de fer nouveau était lancé et devait transporter des milliers de tonnes de charbon.
Alors,
et bâtir des empires.
Clive Lemming, vous allez comprendre que la prochaine question, je la pose plutôt à Jean Descartes. Est-ce que dans cette affaire, les Anglais nous ont encore damé le pion, Jean ?
Ah ben oui, ils ont été les premiers. Non, mais nous avons pris du retard, il faut le dire, à cause de la Révolution française. On aurait pu avoir un développement technologique un peu plus tôt. Bon, voilà, c'est tout. Peut-être que l'insularité britannique a aidé à s'organiser, à se débrouiller.
Puis un esprit d'organisation et un esprit nodal chez les Britanniques qui, évidemment, se prêtait assez bien à l'invention du chemin de fer.
Oui, mais vous savez, il y a une civilisation étonnante autour du chemin de fer britannique. Je pense que c'est un pays, un État qui a été particulièrement marqué, la France l'a été aussi, mais aujourd'hui encore, les amoureux du chemin de fer à l'ancienne, qui sont vraiment des ayatollahs extraordinaires du rail, sont inouïs au Royaume-Uni. On a des gens, et il y a à York un musée absolument fabuleux, on a les choses très bien en France, mais il y a une espèce de folie raisonnable, et regardez les séries télévisées comme Chapeau Melon et Mottes de Cuir, il y avait toujours des personnages avec des trains extraordinaires, sans parler de l'atmosphère policière.
Quand on raconte l'histoire des États-Unis, on la raconte très souvent à partir du chemin de fer, car on se rend compte que le développement, l'industrialisation, l'urbanisation, c'est ça. Mais on pourrait en faire autant avec l'Angleterre et la France du 19e siècle.
Hein. Je voulais vous dire qu'il n'y avait pas de retard français à l'époque, et les Anglais n'ont pas eu de pion à damer à personne, parce que la France était un pays très en avance et qui avait un magnifique réseau de canaux. Eh oui, donc on n'avait pas besoin de ces chemins de fer.
On avait moins besoin,
Et les Français, ils les appelaient les canaux secs. C'est-à-dire que c'était des voies qui venaient s'ajouter aux canaux, qui étaient des compléments. Et finalement, la monarchie française à l'époque n'a pas cru bon devoir investir dans ce système qui semblait réservé à une Angleterre plutôt insulaire et élitiste, comme vous l'avez fort bien dit, Jean Descartes.
Alors, tout ça naît sous la Restauration, c'est-à-dire très tôt. On a toujours l'image d'un chemin de fer datant du Second Empire en France. Tout ça existait sous la monarchie de Juillet, même avant ça, même sous Louis XVIII.
Louis XVIII qui signe le décret en 1723, autorisant finalement la première ligne qui va de Saint-Étienne à Andrézieux sur les bords de la Loire.
Elle fait 23 kilomètres, cette première ligne.
Et c'est un canal sec, c'est-à-dire que les wagonnets apportent par déclivité, en roulant librement, toutes les marchandises qui vont être chargées sur les bateaux. La France n'est pas en retard.
Ce sont bien des transports de marchandises. Pour l'instant, on ne parle pas encore tout à fait de transports de voyageurs. Mais ça va venir. Question. On y vient, nous, dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous sommes toujours en compagnie sur Europe 1 de Jean Descartes et de Clive Lamming, qui est historien des chemins de fer français, conseiller technique de la série Il était une fois le train, la grande histoire du chemin de fer français. C'est disponible en coffret de DVD et coffret livre collector en partenariat avec Europe 1.
Et c'est passionnant à suivre. C'est vrai que c'est une belle et grande aventure qui a littéralement repoussé tous les horizons à l'époque de l'invention de ce chemin de fer. Alors, évidemment, on a eu peur parce que tant qu'il s'agissait, Jean Descartes, de transporter des marchandises, ça allait, mais le jour où on commence à installer de braves gens à l'intérieur, c'est plus inquiétant. Certains médecins crient au scandale et au danger.
Oui, parce que la révolution, si vous voulez, par rapport au cheval et à l'aventure maritime, un animal et la nature, on arrivait à admettre un certain nombre d'imprévus. Mais à partir ou du moment où il y a cette espèce de ce taureau soufflant et beuglant qui fait du bruit, qui est
le cheval d'orgueil, comme disait Pierre-Jacques Azélias.
Oui, à peu près, les gens sont absolument affolé. Monsieur Arago estime qu'à partir de 27 km à l'heure, le cœur sous un tunnel va exploser. Enfin bref, on voit la panique. Donc quand même, en 1837, quand le gouvernement autorise la reine Marie-Amélie à prendre le premier train de voyageurs français pour aller du Paris.
Alors ça, je vais le raconter dans un instant, si vous
non,
voulez.
Non, mais je veux dire, ce qui est drôle, c'est que on préfère que la reine y aille, on interdit au roi d'y aller, parce que si ça explosait, il y a quand même les princes héritiers. Donc je veux dire, là, l'apparition du chemin de fer pour transporter des voyageurs est une révolution considérable qui va être brocardée par Daumier, par les caricaturistes.
Du reste, il y a eu assez vite un gros accident de chemin de fer, c'est le célèbre accident de Meudon en 1842, tout un train qui rentrait des grandes eaux à Versailles.
Oui, les grandes eaux à Versailles qui descend la côte parce qu'on a trop chargé la rame, les freins des machines n'avaient pas été vérifiés, etc. Donc la première catastrophe de ce mode de transport, de locomotion, va évidemment apporter de l'eau, si je puis dire, au moulin des attaquants du chemin de fer qui disent c'est beaucoup trop dangereux. Non, le comble surtout, c'est que parmi les victimes, figurait l'amiral Dumont d'Urville qui avait fait 3 fois le tour du monde. Et il y a des gens qui écriront à ce moment-là, vous voyez, la mer, elle, n'aurait jamais fait ça, ce qui est aussi stupide de dire que le chemin de fer est assassin.
55 morts et qui en plus ont brûlé dans les voitures. On fermait les portes de l'extérieur.
Oui, parce que on ne voulait pas que les gens puissent sortir. Les gens voulaient
profiter. Et les voitures étaient en bois.
De l'exaltation de la vitesse, qui est un phénomène et une sensation nouvelle, très grisante.
Alors vous vous définissiez il y a un instant pendant l'interruption, Clive Lamming, comme un caronien, c'est-à-dire un disciple du grand professeur Caron, absolument, qui explique que l'histoire des techniques et des technologies est directement une histoire économique. Absolument. Il ne faut jamais oublier cet aspect.
Vous voulez, l'aspect technique n'est guère que la lisibilité, si je peux dire, que l'apparence finalement des phénomènes économiques. Et pour en venir justement à ce transport des voyageurs, les premières compagnies n'en veulent pas. D'ailleurs, George Stephenson dit aux compagnies, si vous mettez des voyageurs, dites aux voyageurs qu'ils voyageront à la vitesse du charbon. Tout simplement. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas les compagnies. Et vous savez que, pour revenir à la catastrophe de Meudon, c'est une opération de publicité remarquable. 55 morts d'un seul coup, ça montre que le train transporte beaucoup de gens. Il y avait 1000 personnes dans le train. Les accidents de diligence étaient à l'unité. Il n'y en avait que quelques, très peu, vous comprenez, en France, milliers.
Ça a quand même coûté la vie au prince héritier à l'époque.
Ça a coûté bien sûr. Mais je veux simplement dire que cette opération a permis à Lamartine de dire « pleurons, pleurons, c'est mort », dit-il en s'essuyant un œil. Mais de l'autre, il regarde déjà les bénéfices, l'expansion absolument fantastique que vont faire les chemins
de fer. Parce que
c'est une belle catastrophe quand même, c'est bénéfique. Et ça a donné de l'argumentation, si vous voulez, finalement, pour les gens qui étaient favorables aux chemins de fer.
Oui, parce qu'il y a une curiosité, la preuve, non, c'est qu'il y avait une
curiosité. C'est la capacité de transport. Oui.
Et il faut bien comprendre que le capitalisme a permis le chemin de fer, mais en échange, le chemin de fer a permis un très grand raffinement des systèmes capitalistes. capitaliste, il a fallu trouver des fonds pour construire toutes ces lignes.
Raffinement peu durable, hélas, puisque à partir de 1905-1910 déjà, rien ne va plus. Oui. Les jeux sont finis en faveur du chemin de fer et il y aura donc une lente agonie financière et économique du chemin de fer sur laquelle nous reviendrons peut-être.
La Hotte de Noël Europe 1.
Jingle pour vous rappeler que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël.
Et oui, pour tenter de gagner un bon d'achat de 900 euros valable dans les magasins Toys R Us et ToysRUs.fr pour vos courses de Noël ou pour gâter vos enfants, neveux, nièces, petits-enfants, vous en faites ce que vous voulez. Inscrivez-vous au tirage au sort, je vous donne le mot de passe, vous envoyez cadeau par SMS au 739-21, 50 centimes plus coût d'un SMS ou bien vous nous appelez au 39-21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous et nous annoncerons avec Franck le nom du gagnant en fin d'émission.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck sur Europe 1 consacré aujourd'hui à l'affaire du tunnel des Batignolles.
Oui, je manque rarement une occasion, vous savez Julia, de citer celui que je considère comme un maître en matière de récit historique, celui qu'à la belle époque, on appelait le pape de la petite histoire, Théodore Gosselin, dit G. Le Nôtre. Or, dans un de ses nombreux volumes bourrés de trouvailles et d'anecdotes, celui-ci s'intitule « Paris et ses fantômes » et je vous le recommande particulièrement. Le Nôtre s'attarde sur l'un des tout premiers ouvrages d'art de l'histoire ferroviaire, le fameux et pourtant bien oublié aujourd'hui « Tunnel des Batignolles », disparu depuis longtemps, comme il l'écrit lui-même, sans un mot d'oraison funèbre. Du reste, le talent de Le Nôtre est trop grand pour que je vous prive plus longtemps du bonheur de l'entendre lui-même. Quand en juillet 1835, écrit-il, on apprit qu'une loi autorisait d'entreprenants spéculateurs à établir un chemin de fer de Paris au Pec, lequel partirait de la place de la Madeleine et irait passer la Seine aux environs d'Asnières, le public en demeura ébahi. Comment les ingénieurs feraient-ils grimper à leur machine la côte de Monceau? Allaient-ils dévaster ce joli hameau et ses riantes maisons de campagne? Bientôt, on sut qu'elle passerait dessous. Et alors ce fut un éclat de rire. Creuser la colline de Monceau et faire voyager des chrétiens sous terre pour leur faire voir le paysage, cela ressemblait fort à une mystification. Aussi, les gens de bon sens demeuraient incrédules. L'avis général était qu'on ne trouverait pas de terrassier assez téméraire pour ouvrir un chemin souterrain dans cette montagne de sable qui s'écroulerait indubitablement sur eux. Un tel travail était si nouveau qu'il paraissait tout bonnement impossible. Pourtant, on va voir des ouvriers s'attaquer au nivellement de la plaine de Clichy, construire, bâtir des ponts de bois sur la Seine, se lancer dans la construction de gares intermédiaires à Asnières, à Chatou, et puis un jour on se met à percer le fameux tunnel. En moins de 2 ans, écrit Le Nôtre, tout fut terminé et l'on avait provisoirement renoncé à prolonger la voie nouvelle jusqu'à la Madeleine. Et oui, en fait, on s'arrête à la place de l'Europe, à peu près là où sont aujourd'hui l'essentiel des voies qui mènent directement à la gare Saint-Lazare. Il faut imaginer les badauds de l'époque qui viennent voir le long des palissades, qui viennent voir ce chantier incroyable, une nouveauté extraordinaire que ce chemin, nous dit Le Nôtre, chargé de grosses barres de fer, parallèlement alignées et qui à quelques 100 mètres d'eux s'engouffrait dans la double gueule noire du formidable souterrain. C'était lui surtout qui hantait les imaginations et on en considérait l'entrée avec une sorte de fascination. Et les commentaires auxquels donnait lieu cette contemplation se terminaient généralement par la même conclusion, ce n'est toujours pas moi qui irai là-dedans. D'ailleurs, il y avait un savant illustre à l'époque qui avait déclaré, au nom de la science, s'il vous plaît, je cite, qu'on rencontrerait dans le tunnel une température de 8 degrés réaumur en venant d'en subir une de 40 à 45 degrés. J'affirme sans hésiter, déclarait ce fameux savant, que dans ce passage subi du chaud au froid, les personnes sujettes à la transpiration gagneront des fluxions de poitrine, des pleurésies et des catarrhes. Donc il n'était pas question de monter là-dedans, c'était trop dangereux. Et pourtant, en août 1837, il va bien falloir inaugurer non seulement la voie ferrée, mais le fameux tunnel. Alors, en l'occurrence, on apprend que les administrateurs de la nouvelle ligne ont obtenu que la reine Marie-Amélie en personne fasse partie du premier voyage. Quant à Louis-Philippe, écrit Le Nôtre, le roi régnant, sa vie était trop précieuse pour que ses ministres l'autorisassent à la risquer dans une pareille aventure. Le chemin de fer lui fut absolument interdit et le souverain dut se se morfondre ce jour de 24 août en attendant l'issue de l'expérience à laquelle se prêtait avec une abnégation méritoire sa chère femme et ses courageuses filles, car les princesses n'avaient pas voulu abandonner leur mère en une si périlleuse circonstance. Ceci fut jugé héroïque. La reine est la première femme qui soit montée dans la voiture aérienne, écrivait le surlendemain un journaliste manifestement remué par tant d'intrépidité.
Sur Europe 1 du Petit Train, Rébus.
Alors évidemment, ça nous rappelle les souvenirs.
Musique
hein,
de l'ORTF, oui.
Évidemment, enfin ça m'en rappelle à moi, vous Julia, vous
n'étiez
pas née.
Moi j'ai 24 ans,
évidemment. ce premier voyage se passe divinement bien et au bout de 2 heures, on voit la reine, les princesses, les ministres ressortir en très bonne santé, visiblement tout guiret de leur aller et retour. Donc évidemment, ça donne envie à toute la bonne société d'en faire autant. Et Delphine de Girardin, qui est rarement la dernière, évidemment, va vouloir faire son voyage. Alors voilà ce qu'elle raconte. Cette fois, c'est elle qui parle. Nous étions rue de Londres à 5 heures. La foule encombrait la porte de la gare qu'on n'ouvrait pas. Nous attendons. Enfin, on ouvre. Nous entrons dans une espèce de couloir en toile verte. Il n'y a qu'un bureau. Tous les voyageurs sont mêlés. Alors ça lui paraît incroyable. Voyageurs à 2,50 francs, à 1,50 franc ou à 1 franc. Non sans peine, nous arrivons au bureau. On nous donne 3 petits papiers jaunes et nous pénétrons dans une salle gothique remplie de peintures. Là, les voyageurs se séparent. Les 30 sous vont à droite. Les 20 sous vont à gauche. Nous attendons encore. Il n'est que 6h10 et l'on ne doit partir qu'à 7h. Patience. On entend un roulement, c'est l'arrivée du convoi venant de Saint-Germain. Tout le monde se précipite aux fenêtres, la cour est vide, les voitures s'arrêtent, on ouvre les portières et alors en un clin d'œil, une fourmilière de voyageurs s'échappe des voitures et la cour est subitement pleine de monde. Ceci est véritablement impossible à décrire, mais c'est très amusant à regarder, croyez-moi. À notre tour maintenant, nous descendons dans la cour, nous montons dans une berline, nous attendons que tous les voyageurs soient emballés, nous étions 600 à peu près, quelqu'un disait 1100, ce quelqu'un avait peur sans doute. Enfin, le cor se fait entendre, nous recevons une légère secousse et nous partons, on va avec une vitesse effrayante, cependant on ne sent pas du tout l'effroi de cette rapidité. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez que la pauvre Delphine Girardin a bien du mal à trouver les termes pour décrire cette expérience qui effectivement n'a pas encore trouvé son vocabulaire. La cour, écrira le nôtre, c'est ce que nous appelons aujourd'hui le quai. La berline, c'est le wagon. Les papiers jaunes, ce sont les tickets. Le corps, c'est la trompette du chef de train. Entre parenthèses, il n'y en a plus de cette trompette du chef de train. On a trouvé mieux depuis. Du souterrain, et se plaint notre pauvre le nôtre, pas un mot dans la relation de Delphine de Girardin. Peut-être la voyageuse en conservait-elle un souvenir peu favorable ? Peut-être aussi les Parisiens étaient-ils déjà familiarisé avec cet épouvantail et comme il n'en avait plus peur, il le dédaignait déjà. Il n'empêche, ce mot tunnel va bientôt se répandre à travers toute la France et on va bientôt employer l'expression, vous savez, arriver au bout du tunnel pour signifier que la lueur entrevue correspond à la fin de toutes les angoisses, de tous les soucis qu'on a pu avoir. Dans son dictionnaire amoureux des trains, Jean Descartes nous dit que rien n'est moins sûr et il nous donne en exemple, cette remarque de l'acteur américain Steve McQueen, vous savez, Steve McQueen, à qui on annonçait une rémission du cancer qui pourtant devait l'emporter. « Si tu vois la lumière au bout du tunnel, disait Steve McQueen, fais bien attention, c'est peut-être un train qui arrive en sens inverse. »
Franck Ferrand sur Europe 1.
Il était une fois le train, voilà ce que nous vous racontons aujourd'hui sur Europe 1, Franck.
Alors, il y avait une pièce de théâtre que j'adorais quand j'étais enfant, c'était le voyage de Monsieur Perrichon et tout ça commence évidemment par un voyage en train. En tout cas, on est à la gare sur lequel le train va partir. C'est le Second Empire, c'est la grande époque d'expansion du chemin de fer, Clive Lamming.
Napoléon III n'a pas fait que des erreurs puisqu'il a voulu doter la France et puis enfin du réseau qui était pour lui ce que la France méritait. Un pays qui veut devenir industriel, qui cesse peu à peu une politique agricole et militaire et veut devenir scientifique et technique.
Et évidemment, ça change les modes de voyager, Jean Descartes. C'est-à-dire qu'on se met à fabriquer des bagages qui vont aller dans les filets de train.
Oui, alors c'est tout un circuit, si je puis dire. On commence par s'acheter une montre, parce qu'il y a l'horaire maintenant, avec les correspondances. Puis des séries de métiers qui vont naître. Le buffet de gare, avec quelques aventuriers au passage qui vont vous refiler un bœuf mironton trois fois dans la journée en vous disant « Dépêchez-vous, votre train va partir, vous n'avez jamais le temps de le manger, c'est le même qui sert pour le train suivant ». Et bon, des métiers, des vêtements de voyage, et puis les quartiers qui vont s'installer autour des embarcadères, puis ensuite les gares, c'est-à-dire avec l'hôtel de la gare, les provinciaux selon la gare.
Les rues du départ et rues de l'arrivée.
Oui, les provinciaux, le quartier des Bretons pour Montparnasse, plus tard le quartier des Alsaciens pour la gare, etc.
Et les Normands à Saint-Lazare.
Donc c'est très important, il y a toute une série d'identités et on est très fiers, n'est-ce pas, mon cher Clive, que les gens portent des uniformes qui viennent souvent de la marine à l'origine. Je trouve que c'est important, l'uniforme des chefs de train à l'époque, tout ça.
Et puis, ça c'est pour ce qui est du voyage, mais n'oublions pas que le chemin de fer sert essentiellement à acheminer des marchandises, et donc il est une source de modification complète de l'économie. C'est-à-dire que d'un seul coup, il est possible de faire des commandes en plus grand nombre, de livrer les produits dans tout le pays. C'est un véritable réseau qui se met en place.
Oui, le chemin de fer permet de faire en heure ce qu'on faisait en journée.
Et voilà.
Si, à l'époque, vous aviez demandé à Europe 1 une permission pour aller faire une émission à Marseille, ça vous aurait pris 24 jours avant le chemin de fer. Après, ce n'est plus que 24 heures. Autrement dit, la dimension du temps est changée. Les dimensions sociales et économiques sont complètement changées. Et le chemin de fer permet de transporter par milliers de tonnes ce qu'avant on transportait à la tonne derrière un cheval. Donc finalement, cet outil...
C'est un démultiplicateur.
C'est un démultiplicateur. Et surtout, c'est un bâtisseur d'empires et de sociétés et d'économies nouvelles. Sans le chemin de fer, pas d'États-Unis, pas de Russie des Tsars. Et par exemple, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'a peut-être pas eu tout à fait tort. L'homme d'Afrique n'est pas assez rentré dans l'histoire. C'est surtout le chemin de fer qui n'est pas rentré dans l'histoire
de l'Afrique. Oui, c'est vrai.
Parce que c'est un pays qui a été colonisé avec des petites lignes de
train. Donc il n'y a pas de voie unique.
Pas de réseau international. Non. Rien qui a permis à ce magnifique continent de connaître le destin qu'il méritait.
Oui, car les rails...
Le chemin de fer est une création, je dirais, non seulement... générée par l'industrie, mais en retour, évidemment, elle va créer une autre forme d'industrie. Mais méfions-nous, le chemin de fer ne crée
pas
la richesse.
Avec le développement du charbon, de l'acier.
Oui, mais le chemin de fer ne crée pas la richesse, il ne fait que la transporter. Dans un pays où il n'y a rien, comme par exemple le Massif central, eh bien le chemin de fer, on fera traverser à force le chemin de fer dans le Massif central, mais il ne générera rien. Le chemin de fer. Vous savez, on promettait la richesse avec le chemin de fer comme une sorte d'utopie, comme l'avenir, la civilisation, le savoir avec l'école. Mais le chemin de fer ne crée pas là où rien n'est produit. Il le déplace, il le met ailleurs.
Ce qu'il faut raconter à nos plus jeunes auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, on va joindre le train. C'est-à-dire qu'on se rend en voiture, généralement, vers la gare la plus proche. Pendant très longtemps, le réseau ferroviaire est devenu si...
La gare était dans le hameau.
Oui, la gare venait partout. On avait la gare toujours à portée de main.
Le chef-lieu de canton, tous les petits réseaux. Vous savez, nous pensons, Clive Lamming et moi, que les rails, l'écartement, les différents écartements... que je ne vais pas évoquer ici en détail, sont une carte de visite et une carte de l'histoire. Vous voyez l'écartement, et vous connaissez l'histoire du pays. L'écartement russe qui est large, eh bien c'est parce que on a dit au tsar Nicolas Ier, sire, imaginez que Napoléon ait eu le chemin de fer. Donc il faut mettre une voie plus large. Donc c'est très intéressant. Comme le dit Clive Lamming, le grand échec technologique à ce point de vue-là de l'Afrique est terrible. C'est peut-être la faute des colonisateurs, on ne sait pas. Mais de ne pas avoir pu unifier sur le plan ferroviaire ce continent, avec toutes les conséquences que ça donne.
Alors pendant très longtemps, le chemin de fer est une affaire de machine à vapeur, bien entendu. D'ailleurs, il faut imaginer toutes ces grandes architectures d'acier et de verre remplis de volutes de vapeur. C'est assez magnifique, bien sûr. Et puis, peu à peu, on va voir arriver l'électricité. Et ça change tout, bien sûr.
Vous qui êtes historien, vous savez le danger qu'il y a à raisonner par étapes. Il n'y a pas d'étape, en fait, dans l'histoire. Il y a des longs changements. Là, on dit que la locomotive électrique apparaît en 1900. Elle est déjà essayée en 1840.
Mais bien sûr.
Vous voyez. Et la locomotive à vapeur ne s'en ira qu'en 1970. Autrement dit, de 1900 à 1970, il y a un long et un certain glissement entre la traction vapeur et la traction électrique. Et finalement, la traction électrique ne s'imposera, pour des raisons économiques, que par le coût effarant du charbon. Et la France, pour ses seuls réseaux de chemin de fer, importe à cette époque-là, dans les années 30, le cinquième du charbon produit à la surface du monde. Parce que la France ne dispose pas du charbon
charbon nécessaire pour ces fines gueules que sont les locomotives. Il leur faut un charbon très fin. Il leur faut du Pittsburgh, n'est-ce pas? Ou il faut du charbon du pays de Galles. Et la France n'en dispose pas. Et c'est le prix du charbon qui va encourager des pays comme la France à électrifier, alors que les Suisses, eux, ils électrifient évidemment aussi parce qu'ils n'ont pas de charbon.
Il y a aussi les motrices à carburant, à diesel aussi. Hein.
La locomotive diesel, la France commence sa politique du pétrole avec nos bons amis irakiens à l'époque dans les années 1937-38. Mais ça ne triomphera que dans les années 50, quand le pétrole sera encore abondant et bon marché. Mais le pétrole s'est défaire en un instant, ce qu'il a mis des siècles à créer. Et on s'en est aperçu le choc pétrolier qui a ramené en force la traction électrique et aussi le chemin de fer.
Je dois dire qu'en 1974, j'ai été le premier journaliste, j'étais à Match à faire le voyage d'essai à bord du TGV 001 qui était au kérosène, mais qui consommait à gaz, qui consommait un carburant comme un avion. C'était effrayant et donc le président Giscard d'Estaing a décidé de la conversion à l'électricité.
Alors justement, nous venons dans un instant à des trains un peu plus récents et qui nous parlent davantage, sans doute.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Un extrait sur Europe 1 de la BO du film de Sidney Lumet, Le crime de l'Orient Express.
Ah oui, c'était en 74, un beau film. Alors Rémi nous dit que la petite histoire du chemin de fer reflète parfois la grande histoire des nations. Ainsi, contrairement au reste de la France, les trains circulent toujours à droite dans les départements rhénans, au lieu de circuler à gauche, une survivance de l'époque allemande, nous dit-il. On n'a pas songé à changer de côté de circulation en 18 quand l'Alsace a réintégré la France, Clive Lamming.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça aurait amené de plus ? Le réseau fonctionnant parfaitement, on l'a laissé tel quel. Oui. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas.
Ça aurait coûté très cher, sans doute, de tout modifier.
Ça aurait coûté très cher pour un simple agrément idéologique.
Oui, c'est ça, oui. Un besoin d'uniformisation.
La politique coûte très cher.
Ah oui.
Est-ce que vous voulez savoir pourquoi les trains anglais roulent à gauche ?
Oui, ah ben bien sûr.
Ah oui, bien sûr.
Parce que c'est facile de dire ça roule à gauche parce qu'ils sont anglais. Les Britanniques, pour être plus précis, jadis, c'était un pays de petits chemins. On se croisait à cheval et on avait intérêt à se croiser par la gauche. Parce que comme ça, si je vous croise et que votre mine ne me revient pas et que j'ai peur, je sors mon épée et je l'appuie sur votre ventre et vous en faites de même. Donc nous nous croisons par la gauche. La France était un pays large, pays moderne, des routes royales très très larges. Donc on pouvait se croiser par la droite. D'autant mieux qu'il valait mieux se croiser par la droite parce que sur ces routes larges, il y avait des postillons, il y avait des diligences et le fouet se maniait de la main droite.
Et, voilà.
Et on pouvait déployer son fouet au-dessus du champ qui est à droite et ne pas risquer d'aller gifler à la figure de celui qu'on croisait. Voilà pourquoi les Britanniques roulent à gauche et les Français roulent traditionnellement à droite. Mais la SNCF, les chemins de fer étant construits par des Britanniques, transfert de technologie, donc sous Napoléon III, ont donc choisi d'avoir des trains qui roulent à gauche. Les Russes roulent à droite. J'ai d'ailleurs fait dans le Larousse des trains un tableau des pays du monde avec à droite et à gauche. Il y a des pays où les voitures sont d'un côté, les trains de l'autre. Beaucoup, par exemple, comme les USA, tout est à droite, ou en Union soviétique. La Chine, je crois que c'est à droite.
C'est très facile de connaître les causes, les vieilles raisons justement de ces habitudes qui sont devenues presque des secondes natures, évidemment.
Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que lorsqu'on arrive, disons, dans les départements dits d'Alsace-Lorraine, on roule tout d'un coup à contre-voie par rapport au reste du réseau hexagonal.
Tout ce que je viens de vous dire, c'est sujet à caution.
Ah bon ?
C'est une supposition. Mais qu'un certain nombre d'historiens
disent. Ça m'a l'air très
convaincant. Intéressant.
En tout cas.
C'est convaincant.
Ah oui, mais vous
savez,
il y a des historiens dans le métier de systématiquement briser toutes les explications à partir du moment où ils n'ont pas les documents afférents.
Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire.
Bah oui, enfin.
Alors, les documents, moi, je ne les ai jamais eus.
Bah non, évidemment.
Donc, je me méfie.
Et on ne les aura jamais. Maurice de Cobra, Gentleman entre deux mondes, c'est un ouvrage de Philippe Collat, édité chez Séguier, que j'ai entre les mains. C'est la grande époque. Alors là, c'est l'époque, l'âge d'or ferroviaire, en quelque sorte.
Bon, d'abord, le génie de Maurice de Cobra dans ce livre,
c'est
son titre. Ce romancier rejoint deux éléments antinomiques. La Madone a un caractère sacré, le sleeping un peu frelaté.
Madone de sleeping.
Donc, rejoindre ces deux univers avec un petit peu d'interdit, c'est formidable. Alors, elle va user toutes les carpettes de la compagnie Wagon-Lit, c'est un personnage extraordinaire. Il a d'ailleurs fini en écrivant un livre qui était nettement moins bien, la Madone des Boeing, mais c'est pas la même chose. Donc, c'est l'époque des grands trains de luxe qui vont unifier l'Europe, une partie du Proche-Orient, une partie de l'Asie aussi, par ces grands trains, les trains Pullman, les trains de nuit, puis bien sûr le train bleu, le Calais Méditerranée Express, avec tout un art et des artisans d'une très grande qualité, comme Lalique, Proulx, Morrison. Ça, c'est toute une esthétique.
C'est quand, ça, c'est le,
les années 30, 25.
Les chemins de fer qui deviennent
de l'après-guerre
un
et qui deviennent en métal, n'est-ce pas? On n'a plus les voitures en bois, pratiquement.
Eh oui, ça change tout.
Donc, les voitures sont beaucoup plus lourdes, près de 60 tonnes, etc. Enfin, c'est une école artistique extraordinaire, le style wagon-lit à l'époque. Voilà.
Avec des trains qui sont restés mythiques, Clive Lamming, qui font partie
oui,
de...
Oui, comme le train bleu qui amenait sur la Côte d'Azur les têtes couronnées, n'est-ce pas? Et c'était oui. une garden party où tout le monde se sentait à l'aise, disait la reine Victoria, qui elle-même d'ailleurs a inventé les WC dans les trains, parce qu'elle tenait à son confort. Mais ces trains-là, vous savez, un voyageur... On ne dit pas un passager dans les...
Non, non.
Voilà,
votre texte du début de l'émission...
Oui,
votre texte du début de l'émission contient le mot passager.
Usager, j'ai dit.
Non, c'est pire.
Passager, c'est encore pire. Je disais qu'un voyageur à bord du train bleu, il lui fallait 5 tonnes de poids mort. Imaginez que votre voiture pour vous transporter pèse 5 tonnes. Tellement l'espace et le confort, ça demande du poids, de l'acier et du volume. Aujourd'hui, dans un TGV, c'est à peine 300-400 kilos. Autrement dit, ces trains n'étaient pas non plus rentables et ils ont très vite prouvé malheureusement leur obsolescence en étant remplacés donc par l'avion et par le chemin.
Oui, mais alors le train prend sa revanche maintenant tout de même en Europe.
Pour de toutes autres raisons.
Pour d'autres raisons.
Pour toutes autres raisons qui sont économiques.
L'avion à moyen terme a prouvé ses limites, la voiture aussi ses limites. Franchement, pour un pays comme la France, pour les pays européens, avec les gares au cœur des villes, quand les trains sont à l'heure. Enfin, moi, j'ai toujours une vieille image romantique des années 60 où dans les Hautes-Alpes, sur la voie unique, il y avait encore un parcours à vapeur de Vennes à Briançon qui me mettait évidemment dans un état d'extase. Je voyais les gens, quand le train passait, regarder leur montre. C'était fabuleux. Dans le fond, ils réglaient leur montre sur le passage du train.
Et puis, il y a toute la population qui va avec, évidemment, le contrôleur, le garde-barrière, enfin tout un...
Il en est beaucoup question dans ces DVD.
Et voilà,
il y a un DVD extrêmement émouvant avec ces deux contrôleuses du TGV de Paris à Perpignan, vous voyez, où elles racontent leur vie, leurs angoisses. Et puis je voudrais aussi dans ce DVD parler de Jean-Michel Loustic, ce conducteur de TGV, qui parle justement de toutes ces affres qu'il surmonte quand il s'y suicide. Enfin, dans ces DVD, vous avez beaucoup de cheminots qui parlent, parce que les cheminots...
Vous avez donné la parole aux cheminots,
Ils ont parlent énormément. Oui. Il y a des syndicalistes, il y a des économistes, il y a beaucoup de monde. Vous savez, on a fait appel à un panel de compétences extrêmement varié, extrêmement nombreux.
Il était une fois le train, c'est en effet donc un double DVD, et puis c'est aussi un ouvrage, c'est un livre, La grande histoire du chemin de fer français de Clive Lamming. C'est en coédition SNCF et Studio Canal, et puis également de Clive Lamming, les secrets des trains dans la célèbre collection Les secrets à la librairie Vuibert. Quant à Jean Descartes, bien entendu, j'ai déjà dû citer je ne sais combien de fois depuis le début de l'histoire de cette émission.
Pas
cette émission-ci, mais vous êtes venu nous parler des trains un certain nombre de fois.
Jean Descartes. C'est votre faute.
Le dictionnaire amoureux des trains, c'est chez Plon, bien entendu. Et puis, alors, il y aurait beaucoup d'autres livres, on va les mettre sur le site internet parce que je ne vais pas encombrer l'antenne avec toutes sortes de titres de livres, mais notamment un certain nombre d'ouvrages sur la SNCF pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, et on ne dira jamais assez c'est l'importance de ces guerres mondiales dans l'évolution du chemin de fer et dans l'histoire ferroviaire, mais ce serait presque l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup à vous deux.